Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai 32 ans et j'ai deux enfants. Pour cette grossesse, j'avais décidé de ne pas prendre la péridurale. Donc du coup, je m'étais préparée psychologiquement et physiquement, sauf que arrivée au jour J, mon corps ne l'a pas supporté. J'ai tenu vraiment jusqu'au bout, mais malheureusement, je faisais des malaises, des hypotensions, des nausées. Et du coup, j'ai préféré prendre la péridurale. J'ai discuté quand même avec l'anesthésiste pour me donner une dose un peu moindre que ce qu'il devait me donner, pour pouvoir aussi surtout ressentir l'accouchement et toutes les émotions qui vont avec. Et finalement, cet accouchement s'est très bien passé. Et je remercie du coup d'ailleurs les sages-femmes qui m'ont vraiment accompagnée jusqu'au bout.
Il aurait été écrit « Tu enfanteras dans la douleur ». Bah, pourquoi en fait? Lors d'un de nos derniers podcasts sur les règles, on a bien compris que souffrir ne fait pas partie intégrante du package quand on est une femme. C'est au 19e siècle qu'un médecin désireux de soulager ses patientes se penche sur une technique pour atténuer les douleurs lors de l'accouchement. La péridurale faisait alors ses premiers pas. Aujourd'hui, environ 80% des parturientes y ont recours alors qu'elles restent marginales dans d'autres pays d'Europe ou du reste du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une péri? Est-ce que c'est mieux d'accoucher avec? Est-ce que je peux décider d'accoucher sans et puis changer d'avis au dernier moment? J'ai peur de pas sentir passer mon bébé, de pas savoir bien pousser, de pas sentir mes jambes. Et si je veux faire pipi, je peux me lever ou pas? Les femmes se posent quantité de questions sur cette pratique et parfois n'osent pas en parler de peur d'avoir l'air ridicule. Alors osons demander tout ce qui nous passe par la tête au sujet de cette anesthésie qui va certes soulager nos douleurs, mais qui peut aussi intriguer, voire effrayer. Notre experte du jour est bien entendu sage-femme, il s'agit de Floriane Stauffer. Elle est également l'auteure de « C'est mon accouchement », le guide pour mettre au monde son bébé naturellement en femme libre et informée. Et elle va répondre à toutes nos interrogations sur le sujet. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère ». Alors, péri ou pas péri? Bonjour Floriane Stauffer.
Bonjour.
Alors on va faire un petit tour d'horizon sur la péridurale grâce à vous. On va commencer peut-être par un petit point médical simplifié hein, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une péridurale, où est-ce que ça se pose, combien de temps ça dure, est-ce que je sens mes jambes, enfin la base quoi. On vous écoute.
Ok, alors la péridurale c'est une anesthésie et c'est ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on va endormir une partie du corps. Pour ce qui nous intéresse, bah, c'est endormir les sensations dans le ventre, dans le périnée, hein, pour éviter à la maman de trop souffrir quand elle trouve que l'intensité de l'accouchement est trop importante pour elle. Et cette péridurale, en fait, on va la faire en introduisant un cathéter au niveau du bas de la colonne vertébrale, hein, au niveau des lombaires. Et ce cathéter va aller jusqu'au fameux espace péridural, justement, dans lequel le médecin va pouvoir introduire, grâce au cathéter, un anesthésiant qui va permettre d'endormir les racines nerveuses qui partent de cet endroit et qui innervent le pelvis.
Et alors, il se pose où ce cathéter? À quel endroit du coup dans notre corps?
Et oui, pardon, les lombaires, eh ben, c'est le bas du dos, hein, quand on dit j'ai mal au rein, voilà, c'est à peu près cette zone-là.
Est-ce qu'on le sent quand on le pose? Est-ce que ça fait mal?
Alors, en général, ce qui se passe, c'est que l'anesthésiste fait d'abord une anesthésie locale, là où il va introduire le cathéter, donc il endort la zone. Et ensuite, une fois que c'est endormi seulement, il va introduire l'aiguille qui va lui permettre de monter le cathéter. Donc, pour la plupart du temps, la pose n'est pas douloureuse. Par contre, au moment où le cathéter monte dans l'espace péridural, vu qu'il y a les racines nerveuses, ça peut faire comme des petites décharges électriques. Mais bon, à côté d'une femme qui choisit la péridurale parce qu'elle a trop mal et que ses contractions deviennent trop difficiles, cette petite décharge électrique, en général, n'est vraiment pas gênante pour les personnes.
D'accord. Et bon, je ne devrais peut-être pas le raconter, je pense que mon mari ne serait pas content, mais nous, on ne le voit pas parce que c'est dans notre dos. Lui était de l'autre côté, il m'a dit que c'était assez impressionnant parce que c'est très, très grand, en fait, ce qu'on nous met dans le dos, c'est ça?
Alors, c'est vrai que l'aiguille peut paraître très longue, mais puisqu'il faut passer entre les vertèbres, vertèbre, bah forcément, c'est une aiguille assez longue, hein, puisque notre colonne vertébrale, on imagine bien qu'elle n'est pas juste sous notre peau. Hein, c'est quand même des os assez gros pour tous ceux qui ont déjà vu une colonne, à quoi ça ressemble. Mmh. Donc effectivement, l'aiguille est grande, mais elle n'est pas très large, par contre. C'est une aiguille assez fine. Donc voilà, en général, avec la peau endormie, ça passe très bien. Mais c'est sûr que pour les papas, c'est impressionnant à voir.
Ça leur fait peur.
Et puis, dans le dos, c'est toujours impressionnant. La femme ne voit pas ce qu'on lui fait, donc ça peut être un peu effrayant. Et puis, le papa voit ce grand truc-là. D'ailleurs, il y a des équipes qui font sortir les papas pendant la pose de péridurale.
Oui, je comprends. Ouais. Et le liquide, le produit, est-ce qu'on le sent aussi quand il passe?
Alors, ça peut faire une sensation. Après, ça, c'est très dépendant des femmes. Mais effectivement, ça peut donner une sensation. De toute manière, l'anesthésie, l'effet endormissant est quand même très rapide. Hein. Donc, une fois que c'est posé, à peine recouché, en général, on commence à ressentir que les sensations s'amoindrissent, et y compris dans cette zone.
Hein. Est-ce qu'on laisse aujourd'hui vraiment le choix en France de prendre ou de ne pas prendre la péridurale? Ou est-ce que ça dépend des projets de certaines maternités? Du coup, est-ce qu'il faut se renseigner en amont quand on est enceinte pour savoir où accoucher?
Alors oui, surtout si on veut éviter. Parce que si on veut une péridurale, il n'y a pas de souci. On
D'accord.
peut vraiment accoucher partout en France. Mm-hmm. Maintenant, c'est vraiment déployé dans toutes les maternités, 7 jours sur 7. Le problème sera éventuellement plutôt pour des femmes qui ne voudraient pas péridurale. En fait, ce n'est pas qu'on va imposer les péridurales, puisque de toute manière, on a le droit de ne
on peut pas d'imposer
quoi que ce soit aux femmes. Hein. Mm-hmm. Voilà, on ne peut pas forcer les femmes. Mais il y a des circonstances médicales où vraiment les femmes vont être vivement encouragées à l'avoir, voire parfois elles peuvent avoir l'impression de subir des pressions. Par exemple, quand le bébé est en présentation du siège, c'est vrai que beaucoup d'équipes ont tendance à vraiment dire aux femmes que c'est absolument nécessaire en cas de manœuvre, en cas de déclenchement, mais ça dépend de l'équipe. Donc là, ça va être important si on n'en veut pas de se renseigner. Et après, indépendamment de ce que pense l'équipe, il y a le souci qui est qu'actuellement en France, on manque quand même de moyens humains, c'est-à-dire d'accompagnement dans beaucoup de maternités. Hein. Les sages-femmes en parlent régulièrement. Mmh. Ce qui fait que une maman qui ne voudrait pas péridurale et qui serait très autonome avec son compagnon ou sa compagne va peut-être tenir son projet, mais une femme qui aurait besoin d'être massée, encouragée, soutenue en continu, eh ben c'est sûr qu'elle craquera tête parce que malheureusement, il n'y a pas toujours assez de sages-femmes. Et donc, ce n'est pas tant qu'on ne laisse pas le choix, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens, malheureusement, dans notre pays, d'accompagner ces femmes qui ne voudraient pas péridurale. Et c'est certainement pour ça qu'on a un taux aussi important en France de D'accord. péridurale par rapport à nos voisines, par exemple allemandes, qui allez, 20-30% d'anesthésie. Quoi.
Et les sages-femmes, vous êtes sage-femme, vous pouvez nous répondre en règle générale. Elles sont plutôt favorables ou pas à la péridurale?
Ah bah oui.
Et pourquoi?
Les sages-femmes sont plutôt très favorables à la péridurale. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de dire, c'est presque un effet dommage de la péridurale. C'est que dans des équipes où on n'a plus le temps, justement, comme je le disais, de s'occuper des femmes, la péridurale, ça permet de les soulager, ma foi, sans avoir besoin d'être à leur côté. Mm. Donc, ça évite de laisser des femmes souffrir toutes seules. Ça, pour ça, elles peuvent y être favorables. Après, au-delà de ça, je pense que toute sage-femme, on est favorable à la péridurale, dans le sens où on sait bien qu'il y a des tas de femmes qui pourraient, en étant bien accompagnées, accoucher sans. Mais on sait qu'il y a des femmes, à peu près 20% des femmes, même si elles étaient toutes excellemment accompagnées, 20% des femmes auront besoin d'une anesthésie parce que pour elles, l'accouchement serait vraiment un processus trop long, trop fatigant, trop douloureux. Et donc, évidemment qu'on est toutes très heureuses en tant que professionnelles de pouvoir apporter une réponse à ces personnes-là pour qu'elles soient soulagées et qu'elles puissent vivre la naissance en étant connectées à leur bébé, heureuses de l'accueillir, et non pas en étant complètement
dans la
coupées de l'événement, tellement elles en sont traumatisées.
Bien sûr. Est-ce que malgré tout, il y a des contre-indications? Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir de péridurale? Des contre-indications médicales ou...
Effectivement, il reste des contre-indications, mais elles sont quand même très très peu nombreuses. Il faut vraiment que ce soit des pathologies ou des antécédents importants. Dans les exemples classiques, on va avoir ce qu'on appelle une hypoplaquettose, c'est-à-dire un taux de plaquettes vraiment anormalement bas, les plaquettes, c'est ces cellules du sang qui permettent de bien coaguler, c'est-à-dire que notre saignement s'arrête. Donc c'est sûr qu'une personne qui aurait un taux extrêmement, extrêmement bas, on va éviter d'aller introduire une péridurale. Ou alors, l'autre exemple serait des personnes qui auraient eu vraiment un accident très important au niveau du rachis, hein, de la colonne vertébrale, avec des opérations qui peuvent créer des déformations importantes ou des soudures, où là, bah, on ne peut plus malheureusement mettre de péridurale dans ces cas-là. Mais c'est quand même des situations exceptionnelles.
Oui, c'est
vraiment,
rare.
Moi, dans ma carrière, j'ai croisé deux femmes concernées. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Hein.
Maintenant, voilà, on se pose des questions, on est une femme, on va bientôt accoucher, et puis on se dit, bon, finalement, moi, j'aimerais essayer d'accoucher sans péridurale. Est-ce que vous savez déjà quelles sont les raisons qui poussent les femmes à ne pas la prendre ? Est-ce qu'elles vous en parlent ?
Ah oui, alors, dans les raisons de ne pas la prendre, il y en a différentes. Une qu'on retrouve beaucoup, et ça, c'est beaucoup des femmes qui ont déjà accouché, c'est que sur un précédent accouchement, avec une anesthésie trop forte, elles ont l'impression d'être passées à côté de la naissance de leur bébé. De ne pas avoir senti la naissance, de ne pas avoir pu y participer. Et ça laisse chez elles de la tristesse ou une difficulté dans le lien à l'enfant. Donc, pour une autre accouchement, elles veulent absolument, cette fois, pouvoir être mobiles, attraper elles-mêmes leur enfant. Donc ça, c'est quand même une grande partie des demandes. C'est ces femmes qui ont déjà eu un bébé et qui ont été déçues de la péridurale. Après, on va avoir celles qui, premier ou deuxième bébé, ont effectivement cette envie de mettre au monde leur enfant en étant totalement mobile, en ressentant leur corps, en le vivant complètement. Et c'est sûr que pour elles, le fait de se passer de péridurale est vraiment la voie la plus épanouissante. Et la comparaison qu'on donne souvent, c'est, alors peut-être j'abuse un peu, mais par exemple, vous partez en montagne, en haute montagne, en randonnée, la vue sera très très belle dans les deux cas, mais peut-être que certaines vont prendre le sommet avec un téléphérique et d'autres vont vouloir le faire à pied.
Okay.
Et il
n'y
a pas de jugement, en fait. Les deux expériences sont très belles, mais on peut bien comprendre pourquoi certaines vont vouloir aller au sommet à pied et d'autres
bien
en téléphérique.
Sûr. Mais oui.
C'est exactement ça qui se passe pour la péridurale.
Mais est-ce que c'est vrai, je reviens sur ce que vous venez de nous dire, est-ce que c'est vrai qu'avec une péri, on ne sent pas le travail ?
Alors, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Le problème de la péridurale, c'est qu'on va mettre une dose, on va faire une dose test avec une femme, parce qu'on ne sait jamais exactement comment réagissent chaque personne à la morphine, à l'anesthésiant qui est injectée. Et donc, on va devoir doser pour trouver, cette personne, quelle est la bonne dose. Et le problème, c'est que chez certaines femmes, malheureusement, la dose va être un peu trop importante, elles vont perdre en mobilité. Vous savez, c'est ces copines qui nous disent « Ah ben moi, j'ai eu la péridurale et je pouvais même plus tenir ma jambe, elle tombait toute seule. »
Ou elle tremblait les jambes tremblaient.
Ou elle tremblait, ou elle ne sentait pas leur enfant. Donc, c'est vrai que ça arrive parce que, ma foi, le dosage de ces médicaments n'est pas une science parfaite. Évidemment, les anesthésistes calculent par rapport au poids de la personne ou autre, mais malgré tout, la réaction aux anesthésiants n'est pas complètement contrôlable. Alors, les péridurales qui marchent vraiment bien maintenant, et ça, c'est une des choses que les femmes peuvent demander, quelle technique utilise la maternité où elles accouchent, et ce qui est souhaitable, c'est vraiment ces techniques de péridurale par auto-injection, donc c'est-à-dire
autogérée,
avec des pompes, et du coup, c'est la femme qui, une fois la dose test mise, va réinjecter en fonction de ses sensations, si elle veut plus d'anesthésiant, si elle en veut moins. Et moi, j'ai comme ça des patientes, par exemple, qui prennent une péridurale parce qu'à un moment, elles sont trop fatiguées, elles n'en peuvent plus, mais qui vont ensuite, par exemple, arrêter la pompe quand la sage-femme leur dit « maintenant, ton bébé n'est plus très loin
».
Et là, elles vont arrêter de mettre des doses en se disant « maintenant, j'ai vraiment envie de bien sentir mon bébé ». Donc, c'est vrai que ces techniques par auto-administration, c'est vraiment super. Et puis alors ça ne s'est pas trop développé chez nous en France, mais ce serait souhaitable. Il y a aussi ce qu'on appelle les techniques déambulatoires, c'est-à-dire que là, on va mettre une certaine dose qui permet quand même à la femme de rester mobile. Et dans certains pays, on voit des femmes avec une péridurale
qui sont
en train de marcher,
mettre
à quatre pattes. Mais alors ça, en France, et je n'ai pas la réponse de pourquoi, mais ça ne s'est pas développé. Ça ne s'est pas du tout développé chez nous. Et c'est dommage parce que ce serait un très bon compromis. Parfois, on a des femmes qui vont être déçues, qui ont l'impression que c'est tout ou rien. C'est soit je tiens sans péridurale et j'ai un super accouchement où j'attrape mon bébé, soit je prends une péridurale et du coup, je ne peux plus rien faire. Et du coup, c'est vrai que ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on développe ces anesthésies déambulatoires ou en tout cas, au moins déjà les auto-administrations. Pour que la femme reste actrice, parce que je crois que c'est ça dont on a besoin en général quand on accouche, c'est de se sentir actrice. Et quand on peut l'être, le péri, pas péri, c'est plus le débat en fait.
Après, il y a donc, vous le disiez, certaines maternités qui pratiquent cette auto-administration. Donc, c'est à la femme enceinte qui doit donc travailler sur son projet et voir quelles sont les maternités qui le pratiquent à côté d'elle, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis se renseigner. Parce que quand on voit une maternité, par exemple, qui a 40% de péridurale et puis l'autre maternité de la ville a 90% de péridurale, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Dans les deux cas, on pourra en avoir une, mais ça veut dire que dans une des deux maternités, il doit y avoir quand même un grand accompagnement des femmes pour qu'elles aient si peu besoin d'anesthésie. Oui. Et quand on voit des maternités avec 99% de péridurale, 97%, vraiment, les femmes ont toutes les raisons de s'interroger parce qu'on se dit, voilà, quel est l'accompagnement pour qu'il y ait autant de femmes qui en aient besoin. C'est surprenant. Donc, il faut se renseigner.
Ces femmes qui choisissent de ne pas la prendre, quelles sont les méthodes, j'ai envie de dire, un peu alternatives pour contrer les douleurs? Comment est-ce qu'elles accouchent pour ne pas trop souffrir malgré tout?
Alors ça, en fait, il y a plusieurs méthodes et ça va vraiment dépendre de la personnalité de la personne, de ce qui lui parle. En tout cas, le principe de base, c'est de comprendre que toute femme qui accouche va créer des endorphines au fur et à mesure que l'intensité de ces contractions va augmenter. Les endorphines, c'est de la morphine naturelle. Vous savez, c'est l'hormone qu'on fait, par exemple, quand on va courir, qui fait que certains de nos copains trouvent ça génial de courir le dimanche matin à 6 heures. Il y en a beaucoup qui trouveraient ça un peu bizarre, mais en fait, ils sont shootés aux endorphines. Eh bien, les femmes, on a cette chance. Si on est dans un environnement favorable, où on se sent détendu, en sécurité, bien entouré, à mesure que nos contractions vont augmenter, on va fabriquer des endorphines. Si on respire de manière ample, on va encore augmenter la dose d'endorphines. Si on s'autorise à gémir, à chanter, à crier de temps en temps quand on en a besoin, on va faire encore plus d'endorphines. C'est un peu comme les tennisman là, qui font un bruit pas possible quand ils jouent. En fait, ça augmente les endorphines. Okay. Donc, ça, c'est le principe de base à comprendre. Et ça va nous décliner différentes propositions. Les endorphines, on les fait aussi plus facilement quand on va avoir des câlins. Et donc, dans les méthodes pour se préparer au sans-péri, eh ben, ça peut être apprendre à vocaliser, à utiliser sa voix, parce que ça va aider. Ça peut être apprendre à respirer. Et là, on a plein de techniques, de la sophro, de la relaxation, juste des séances de respi. Ça peut être avec le partenaire apprendre des ateliers où on apprend au partenaire des techniques de massage, des techniques d'acupression pour soulager. Et là encore, on est à la fois dans le soulagement, dans la fabrication d'endorphines. Et puis après, on va pouvoir y ajouter une préparation, j'ai envie de dire mentale, hein, presque comme un sportif. Déjà, moi j'ai envie de dire, il faut que les femmes y croient. Hein, souvent, on dit, si on part déjà à moitié battu d'avance, ça va être plus difficile. Ouais. Par contre, si vraiment on y croit, et ça ne veut pas dire qu'on est totalement dans un monde idyllique, mais simplement, on se dit, moi, j'y crois. J'ai envie de me faire confiance, je pense que je peux y arriver, et je visualise que je vais y arriver. D'ailleurs, certaines femmes s'aident d'hypnose, par exemple, que ce soit l'hypnonatal, l'hypnobirthing, ou de sophrologie, de visualisation. Et elles vont se préparer mentalement, mais même sans ça, certaines femmes le font très bien sans cours.
Sans préparation, ouais.
Oui, oui, oui. Et ça va dépendre. Bah, déjà, ça dépend de notre parcours. Hein. C'est sûr qu'en fonction du nombre de bébés qu'on a eu, on a plus ou moins besoin de préparation. Il y a notre expérience. Et puis, il y a qui on est aussi. Moi, je sais que j'ai accompagné plusieurs sportives ou des danseuses professionnelles, notamment, qui sont vraiment habituées, en fait, à travailler leur corps et à faire avec la sensation intense. Et du coup, pour elle, l'accouchement était facile, j'ai envie de dire.
Alors, est-ce que, imaginons, je me prépare, je me dis, ben, je vais le faire sans, j'y crois, j'ai confiance, j'arrive à la maternité, les contractions, et puis que bon, voilà, face à la douleur, et encore une fois, c'est pas grave, comme nous disent souvent les psys, c'est OK. On change d'avis et on se dit, bah non, là, j'ai trop mal. Il me la faut tout de suite maintenant. Est-ce que c'est possible et jusqu'à quel moment on peut la demander et changer d'avis?
À notre époque, c'est possible, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est possible quasiment jusqu'à la dernière minute. Parce que si ce n'est plus possible de la poser qu'on n'a plus le temps, eh ben c'est que le bébé est en train d'arriver. Donc oui. Là, j'ai envie de dire, c'est juste ce qu'on appelle la fameuse phase de désespérance, hein, ce moment que beaucoup d'entre nous ont connu, où le bébé, forcément, arrive sur notre périnée, ça se tend, voilà, c'est impressionnant, il se passe tellement de choses, même dans notre tête. Hein. Eh ben, si c'est juste ça, les sages-femmes, on sait très bien faire. On va rassurer la personne, on va l'encourager. Et puis, de toute façon, 5-10 minutes plus tard, son bébé sera né. Mais en dehors de ces cas-là, une péridurale, pour qu'on puisse la poser et qu'elle soit efficace, il nous faut, allez, entre 15 et 30 minutes, selon les équipes.
D'accord.
D'accord,
okay.
Donc, c'est quand même assez rapide. Et puis, si la femme était déjà dans la maternité, elle a déjà son bilan de fait, donc on peut le faire tout de suite. Après, c'est sûr que si elle vient juste d'arriver... Ça arrive, hein, des fois. On se présente à la maternité, on est déjà en fin de travail.
Oui.
Là, il nous faut plutôt une heure pour la péridurale. Mais
d'accord.
En gros, l'idée, c'est de se dire que si on ne peut pas avoir péridurale, c'est qu'au pire, le bébé, normalement, dans l'heure, il est là. Donc,
okay.
Avec des encouragements, du soutien, on va la tenir cette heure.
Est-ce qu'on sait, c'est une question qui revient surtout pour les femmes qui accouchent la première fois, qui se posent la question sur cette péridurale qui peut, comme je le disais parfois, un petit peu, un peu effrayée et qui pose des questions. Est-ce qu'il y a des incidences sur le bébé lors de l'accouchement et aussi sur la maman?
Alors, en fait, la péridurale, quand on la pose, ce qui peut se passer, si je fais très simple, c'est qu'il peut y avoir une chute de tension chez la maman.
D'accord.
Et cette chute de tension peut se répercuter chez le bébé avec son cœur, du coup, à lui, hein, qui ralentit un petit peu. C'est pour ça que quand une femme a une péridurale, on va lui mettre une perfusion avec ce qu'on appelle un liquide de remplissage et parfois certains médicaments contre l'hypotension. Donc, il peut y avoir cette conséquence-là. Une autre des conséquences, c'est que si la femme devient trop immobile, ses tissus vont se congestionner, son périnée, ses muscles peuvent se congestionner, gonfler. Et la position en elle-même, hein, notamment la position sur le dos, peut limiter la descente du bébé.
Oui.
Donc ça peut jouer. Et puis, il peut y avoir un périnée qui du coup, est plus fragile. Voilà grosso modo ce qu'on va retrouver en chose principale. Mais normalement, les équipes tiennent compte de cela. Et puis, quand on regarde les études scientifiques, on ne retrouve pas, je veux dire, quand on prend des grandes populations, on ne va pas retrouver de choses vraiment extrêmement problématiques sur la péridurale. Le tout, c'est de différencier les péridurales prises au bon moment des péridurales imposées, hein, qui ne seraient pas... à un moment
où
la femme en a besoin. Parce que c'est sûr que les conséquences d'un acte, on va les tolérer plus ou moins en fonction de pourquoi on l'avait. Si on m'a imposé en péridurale et qu'en plus je fais un malaise, ça va vraiment... Je vais vraiment mal le vivre. Alors que si j'en avais absolument besoin et que j'ai une petite chute de tension, je vais trouver ça pas très grave. Donc, il faut toujours remettre dans le contexte.
Vous diriez aujourd'hui, avec le recul et votre expérience, que c'est un acte qui est complètement sécure. Il n'y a aucun souci.
Alors, c'est un acte qui est complètement sécure. Par contre, ce dont il faut bien que les femmes aient conscience, c'est que malgré tout, la péridurale impose souvent une position sur le dos pour que le produit se place bien pendant un certain moment et après des positions plutôt allongées. Et la péridurale ne permet pas forcément de se mobiliser comme on voudrait, comme je le disais. Et on sait que ça peut créer des accouchements qui pourraient être quand même plus longs ou un recours aux instruments, par exemple une ventouse, un forceps, plus important. Donc ça, il faut que les femmes en aient conscience dans leur choix aussi, hein, de se dire, voilà, est-ce que ça peut jouer ou pas. Et sur l'allaitement maternel, alors là, les études sont un petit peu plus discutables, oui. Mais on pourrait retrouver des difficultés dans les premiers jours d'allaitement plus nombreuses chez les bébés qui sont nés d'une maman qui avait une péridurale.
Et pourquoi ?
Alors, dans les causes, il y aurait le fait que la maman sous anesthésie n'aura pas sécrété toutes les hormones qui préparaient l'allaitement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans un accouchement, c'est ce qu'on appelle la cascade hormonale. Parce que j'ai des contractions, je vais faire de la prolactine. La prolactine est une hormone pendant l'accouchement qui vient en réponse à l'intensité pour soulager la mère et pour l'aider à avoir ce qu'on appelle des comportements instinctifs. À se mettre à quatre pattes, voilà. Et donc, une femme qui n'a pas eu besoin de synthétiser de la prolactine, eh ben, la prolactine, c'est elle aussi qui aide au montée de lait, hein, c'est elle qui fait fabriquer le lait dans les seins. Donc, certains chercheurs disent, attention, une maman qui n'a pas eu sa cascade hormonale complète, ça peut jouer. Ça pourrait être une des explications de l'allaitement avec un petit retard. Mais en général, avec un bon accompagnement de l'allaitement, ça se récupère. Et là encore, ça dépend de quand on prend la péridurale. Parce que si je la prends après avoir eu des contractions intenses, après avoir fait tout ce que je pouvais, ma cascade hormonale aura commencé. Donc moi, ce que je dis aux femmes, l'idée, c'est de se dire, on y va étape par étape. Vous êtes prêtes. Moi, je prépare toutes les femmes au sans péridurale. On ne sait pas ce que va nous proposer la vie. Il y a des bébés qui naissent vite, des bébés qui naissent lentement. Donc, on se prépare à faire éventuellement sans, si on en a envie. Et puis, on y va étape par étape et on accueille. Et on voit, est-ce que je vais en avoir besoin ou pas. Et comme ça, quand on prendra la péridurale, ce sera au moment où on en avait besoin, si on avait besoin. Et avec cette méthode-là, la plupart de mes patientes, en fait, accouchent sans anesthésie. Et celles qui la prennent vont plutôt avoir des péridurales tardives.
Bah, c'est plutôt bien.
Voilà, donc à un moment où ça ne pose plus du tout problème, au contraire. Oui.
J'avais une dernière question à vous poser. Comment est-ce que vous expliquez que la péridurale ait été une vraie révolution, une bénédiction pour les femmes et qu'aujourd'hui, justement, les femmes s'en éloignent de plus en plus? Pourquoi est-ce qu'elle aurait aujourd'hui plus mauvaise presse qu'avant, la péridurale?
Alors, il faut quand même remettre en contexte. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des femmes qui ont connu les accouchements au début de la péridurale. Au début, les femmes n'en voulaient pas. Hein. Ça leur faisait plutôt peur qu'autre chose.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui a été proposé par les médecins. Après, une fois que les femmes ont eu compris ce que c'était et qu'on a eu des techniques sécurisées, effectivement, elles s'en sont emparées, mais on les a aussi vraiment invitées à en avoir. Et là, à l'heure actuelle, en fait, la péridurale, pour moi, c'est le symbole des questions sur l'hypermédicalisation. C'est-à-dire que la péridurale, quand elle concerne entre 20 et 40% d'une population, c'est très bien. Ça veut dire qu'en fait, elle vient répondre à des femmes qui ont un accouchement anormalement long, anormalement douloureux. Donc là, c'est parfait. Par contre, quand on a plus que ces taux-là, ça veut dire que la péridurale vient faire pansement, elle vient à la place de l'accompagnement et elle crée de la déception. Et je pense que c'est pour ça, hein, je l'ai dit un peu au début du podcast, quand on regarde y compris l'enquête périnatale nationale, hein, qui permet de voir comment se passent les naissances dans notre pays et la satisfaction des personnes, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de femmes déçues de la péridurale. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre quand c'est un choix par défaut, parce qu'on s'est senti seul, qu'on s'est pas senti accompagné, qu'on a été perdu. La péridurale n'est pas un cadeau. Et donc, on a des tas de femmes qui disent, moi, je préfère aller dans un lieu, par exemple, une maison de naissance, un accouchement à domicile, une naissance en plateau technique avec ma sage-femme, où je vais être bien accompagnée sans péridurale, plutôt que d'aller à l'hôpital avec une péridurale, mais de me sentir seule, de ne pas comprendre ce qui m'arrive. Et c'est pour ça, en fait, que les femmes s'en détournent. Le problème n'est pas la péridurale en elle-même, mais ce qu'on en a fait.
Eh oui. Non, bon, alors, péri ou pas péri, voilà, aux femmes de décider. J'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair et à prendre votre décision, en tous les cas, quelle qu'elle soit. On a bien compris, elle sera la bonne et la mieux pour vous. Merci beaucoup, Floriane Stauffer, d'avoir répondu à toutes nos questions sur la péridurale.
Merci à vous. J'ai été très heureuse de vous répondre.
Merci. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. On n'oublie pas, c'est tous les premiers samedis du mois, le podcast Parents galère sa mère. Et puis, si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, vous nous mettez vite 5 étoiles et vous envoyez vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada. Je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.